penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Chers amis auditeurs, bonjour. Après une émission d'introduction la semaine dernière, nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, avec deux personnes qui vont dialoguer, l'un qui est enseignant et l'autre qui est étudiante. Donc l'enseignant, c'est le père Antoine Altieri, qui est professeur à la faculté de philosophie, mais également à l'IERP.
Exactement.
Voilà, bonjour. Et vous êtes prêtre de quel diocèse ?
Je suis prêtre du beau diocèse de Périgueux et Sarlat.
Voilà. Et nous avons une étudiante avec nous, une étudiante de l'IERP qui est en seconde année.
Oui, exact.
Voilà. Je vais lui demander, donc, elle s'appelle Séphora Morero. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter ?
Oui, bonjour, bonjour à tous. Du coup, effectivement, donc Séphora Morero. Je suis actuellement étudiante à l'IERP depuis maintenant un an et je viens de rentrer en deuxième année, là, du coup, donc sur Toulouse.
Voilà, alors, Père Antoine Altieri, vous faites à l'IERP un cours qui s'intitule « Introduction à la philosophie de l'expérience religieuse » et donc vous allez tous les deux nous débattre du thème « Comment témoigner la foi chrétienne dans un monde sécularisé ». Donc, je vous laisse la parole, allez-y.
Merci. D'abord, je suis un petit peu... intimidé d'intervenir dans votre radio, hein, que je ne connais pas, mais c'est avec grand plaisir. De fait, je donne un cours à l'IERP là, depuis 2 ans maintenant, et à la faculté de philosophie depuis plusieurs années aussi, qui est centré autour de recherches, à la fois de recherches personnelles, qui tournent elles-mêmes autour de la question du rapport entre théologie et une école de pensée philosophique, hein, qu'on appelle la phénoménologie. Alors, je ne veux pas barber nos auditeurs avec des mots compliqués, mais ça situe un peu les choses. Peut-être plus largement, le but de ce cours et les recherches qui vont avec, hein, se fondent sur un questionnement personnel, au fond, qui m'habite depuis de longues années. Et qui est, je crois, le questionnement de tout chrétien, de tout catholique, pratiquant ou pas d'ailleurs, hein, ou de tout homme religieux en général, c'est de savoir comment notre message chrétien peut encore être audible dans notre monde contemporain, qui est un monde sécularisé, en tout cas en apparence, hein. Mais c'est vrai que la pratique religieuse est en forte baisse, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Et du coup, je me suis toujours interrogé sur une manière peut-être pertinente d'annoncer l'évangile dans ce que l'Église appelle une certaine intelligence de la foi, quoi. Je sais pas si vous me permettez, mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé, plus précisément, déterminer l'enjeu de ce cours, hein. Je ne me trompe pas, je crois que c'est un peu pour ça que je suis là. J'en suis désolé pour les auditeurs, mais c'est la première fois, hein, une des premières fois que je parle à la radio, donc j'espère qu'ils seront indulgents, mais... L'objet de mon cours est de dire, au fond, de montrer qu'il peut y avoir une expérience religieuse, au sens d'une expérience où Dieu serait présent en elle, si vous voulez, ailleurs que dans nos églises, d'une certaine façon. Et ce, d'ailleurs, en raison d'une notion hautement théologique, hein, qui est, me semble-t-il, l'affirmation théologique d'un Dieu qui est toujours déjà là. Vous savez, on entend souvent dire que les chrétiens ont peur de mourir et qu'ils ont envie d'être aimés, et que de ce point de vue, ils s'inventent un Dieu qui les aime et qui les sauve de la mort. Et donc, la foi religieuse nous est souvent renvoyée comme une espèce de béquille que nous nous donnerions à nous-mêmes pour combler nos vides existentielles et nos questionnements sur le sens. Et ça, je pense que... c'est pas tout à fait vrai, puisque les théologiens nous disent, semble-t-il, que Dieu est celui qui est toujours déjà là, selon l'expression consacrée, celui qui nous aime le premier, celui qui est là, même en amont de tout questionnement sur le sens de la vie.
Voilà. Mon père, je me permets, vous expliquiez que vous étiez spécialiste en phénoménologie. Je me demandais du coup à quel endroit vous situez la phénoménologie ici par rapport à la théologie.
Alors c'est une question très pertinente, effectivement. J'ai parlé de phénoménologie, alors j'espère, hein, ne pas barber nos auditeurs encore une fois, mais Disons que la phénoménologie, c'est une école de pensée qui a été initiée par quelqu'un qui s'appelle Husserl, au début du XXe siècle, disons, qui a fait beaucoup de petits dans le monde philosophique, notamment de langue française, des gens comme Merleau-Ponty, comme Sartre, comme Michel Henry, Marion, enfin toute une école de pensée. Et la phénoménologie entend revenir à l'expérience vécue, à la conscience que nous avons des choses finalement, mais à l'expérience vécue. Et de ce point de vue, donc, pour répondre à votre question, c'est une école qui est tout indiquée pour celui qui entend justement essayer de mettre en évidence quelque chose comme Dieu dans la vie simplement vécue et en amont de tout questionnement sur le sens de la vie et même en amont de toute pratique religieuse au sens strict. Voyez.
À ce moment-là, du coup, est-ce qu'on pourrait restreindre l'expérience religieuse à la seule religiosité au sens commun du terme?
Alors, c'est un peu l'objet du cours, c'est effectivement de montrer que non. Et que, pour le dire très simplement, je veux choquer personne, je pense que les catholiques pratiquants, d'ailleurs, le savent bien eux-mêmes, nous n'avons pas le monopole, si j'ose dire, de la religiosité. On peut trouver des expériences qui soient authentiquement religieuses, c'est-à-dire référées à une transcendance, vous voyez, quelque chose de mystérieux, ailleurs bien sûr, mais je dis une banalité, hein, mais ailleurs que dans nos pratiques religieuses stricto sensu, quoi. Voilà, c'est un peu l'objectif. Si vous voulez, c'est d'élargir autant que possible, sans trahir ce que nous sommes, évidemment, mais montrer la pertinence de ce que nous disons, de ce que les théologiens affirment, montrer au fond que nous avons raison de croire, mais pour ce faire, interroger la vie telle qu'elle est vécue de la manière la plus neutre possible. Et pour continuer à répondre à votre question, la phénoménologie, justement, est une école de pensée qui met de côté toute préconception métaphysique, théologique, même philosophique d'une certaine manière, pour revenir à l'expérience et à l'expérience seulement.
Okay. Dites-nous un peu plus sur cette expérience, justement.
Sur les expériences que j'examine, peut-être.
Oui.
Ben merci, parce que je vois que vous avez bien suivi vous avez été assidu en cours. Hein. Alors, de fait, il faut bien choisir des expériences. Et j'en ai choisi deux types d'expériences, qui sont d'abord l'expérience esthétique, l'expérience de l'art. Que se passe-t-il lorsque, je sais pas moi, un poète écrit un poème, ou lorsque un esthète, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'art, contemple un tableau, voilà. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'expérience vécue? Et est-ce que là ne peut pas se montrer justement une transcendance? Ça, c'est le premier type d'expérience, l'expérience esthétique. Et un second type d'expérience, qui est l'expérience d'autrui, de l'autre personne, mais d'autrui pour autant qu'il est aimé dans ce que l'Église appellerait un amour de charité. C'est-à-dire aimer autrui pour lui-même et non pas pour ce qu'il peut m'apporter, quoi.
Et quel lien vous faites avec l'expérience religieuse? Ça serait intéressant du coup de savoir en quoi l'expérience esthétique, par exemple, peut être qualifiée de religieuse.
Voilà, c'est une sacrée question. pour le dire peut-être, oui, je vais essayer de le dire simplement. Il me semble que dans un tableau, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est non pas seulement ce qui est représenté, le cas échéant, quand c'est une œuvre figurative, tel ou tel portrait, tel ou tel paysage, c'est aussi, pour celui qui a des yeux pour voir, c'est aussi le style de l'artiste. Et ça renvoie d'une certaine manière aussi à un grand phénoménologue qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui nous parle de la personne, au fond, comme style, comme manière d'être, une manière absolument singulière. Et dans le tableau, nous entrons en quelque sorte en communion, non pas seulement avec l'œuvre en tant que telle, mais peut-être aussi avec celui qui l'a faite. Et là, avec le style, on est en présence de quelque chose d'indéfinissable et de mystérieux. Et donc avec quelque chose qui peut s'apparenter à du religieux et qui peut être référé ensuite à ce que la théologie nous dit du fait religieux.
Du coup, enfin, en parlant de ça, du coup, j'imagine que vous renvoyez à la notion lévinassienne de l'altérité.
Oui, bien sûr. Hein. Pour Lévinas, l'altérité, l'autre, c'est celui qui fait irruption dans ma vie, qui me bouscule, qui me désarçonne, qui me surprend. Et là, il y a quelque chose qui ne peut pas ne pas interroger à la fois le philosophe et le théologien, quoi. En bonne théologie, quand on a la prétention d'être arrivé, de tout savoir sur tout, c'est là qu'il faut se poser quelques questions. Et quelque chose qui surprend, qui déplace, qui oblige à se remettre en question, le cas échéant, et à tenir compte de l'autre pour lui-même. C'est évangélique, tout simplement.
Oui. Donc, irruption de l'autre à travers soit une œuvre d'art, par exemple, vous avez pris cet exemple, la présence de toute autre personne qui fait irruption et qui, du coup, va m'ouvrir à autre chose. Et de cela, nous continuerons à débattre lors de notre prochaine émission. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour poursuivre ce dialogue entre Antoine Altieri et Séphora Morero. Chers amis auditeurs, à bientôt. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la suite la semaine prochaine.